prête à frapper des mains. On y va.
Christ, notre Seigneur.
Ce matin encore de proclamer le nom du Seigneur. Il est beau encore d'acclamer sa grandeur et on va prendre ensemble de manière communautaire ce temps de Sainte-Seine, le repas du Seigneur. Et j'aimerais juste introduire ce moment par quelques lectures. Paul dit, nous sommes en 1 Corinthiens 11, les versets 23 à 26, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Paul écrit aux Corinthiens, alors que certains prenaient la Sainte-Seine de manière incorrecte, Paul use de pédagogie et leur dit que ce repas, cette ordonnance, revêt d'une grande importance et qu'il faut le prendre de manière correcte. La Sainte-Seine est un trésor, car il annonce quelque chose de fort. Il actualise le message de l'Évangile. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Jésus-Christ est ressuscité pour que nous puissions vivre. Et la bonne nouvelle, c'est que Christ revient. Alors qu'on s'achemine petit à petit vers la période de Noël, rappelons-nous dans nos cœurs que Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité pour nous, et que bien plus, il revient pour nous. Car un enfant nous est né. Prions ensemble et prenons le repas. Seigneur, on te remercie, Seigneur, on te loue encore pour la grâce que tu nous donnes de pouvoir être réconcilié à toi, Seigneur. Et Père, à travers ce repas, Seigneur, on veut dire à notre âme, Seigneur, que par toi, Seigneur, nous avons la vie, Seigneur Jésus. On veut se rappeler, Seigneur, que ta vie, Seigneur, nous donne la vie, Seigneur. Que tu nous as sauvés, Seigneur, de notre péché, Seigneur. Et que si nous pouvons nous tenir en ta sainte présence, c'est par ta grâce, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur. Sois élevé et que louange, gloire te soit rendue. Amen.
Merci Seigneur pour ton sacrifice, merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous Seigneur dans la semaine, tout ce que tu fais pour nous chaque jour Seigneur. Nous voulons vraiment être reconnaissants Seigneur, vraiment Seigneur merci, élevons nos voix.
Juste à cœur de rappeler qu'est-ce que le sang de Jésus peut faire. On a chanté rien que le sang, rien que le sang de Jésus qui peut sauver. Le sang de Jésus peut sauver. Le sang de Jésus peut guérir. Le sang de Jésus peut libérer, peut délivrer. Le sang de Jésus peut pardonner. Et si y a un domaine qui te rejoint, toi, peut-être tu as besoin de pardon, peut-être tu as besoin de guérison, peut-être tu as besoin de vivre un renouveau spirituel, un renouvellement. Tout ça, le sang de Jésus peut le faire. Quand je parle du sang, je parle de la mort de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus permettent toutes ces choses. Je propose juste qu'on ferme les yeux, on va continuer dans la louange, puis on va proclamer qu'est-ce que le sang de Jésus peut faire dans ma vie. Le sang de Jésus peut pardonner, il peut sauver. Peut-être c'est pour toi ce matin. Le sang de Jésus peut libérer. Le sang de Jésus peut me renouveler dans ma joie. Le sang de Jésus peut me renouveler peut-être dans des terreurs que je suis en train de vivre, dans une peur, dans un stress que je suis en train de vivre, dans une angoisse que je suis en train de vivre. Le sang de Jésus peut m'amener de la paix. Le sang de Jésus peut me faire redécouvrir l'amour de Dieu. Le sang de Jésus me fait encore redécouvrir que Dieu est bon, que Dieu est fidèle, que Dieu est souverain, que Dieu a un plan pour moi, que Dieu est devant et derrière et sur les côtés et qu'il m'entoure et qu'il me protège. Le sang de Jésus me donne cette espérance que Jésus est là, que Jésus est présent, qui vit en moi par son esprit et qu'il peut et que je peux tout par lui qui me fortifie quand je vis des moments difficiles, quand je vis des épreuves, mais aussi qu'il est là quand je vis des moments de joie, des moments où on célèbre ensemble, des moments de victoire parce qu'il est l'auteur de toutes mes victoires. Est-ce qu'on peut proclamer ce que le sang de Jésus représente pour nous ce matin? Moi Seigneur, je veux te remercier parce que le sang de Jésus, il m'a sauvé il y a 13 ans. Quand je t'ai donné ma vie à 16 ans, tu m'as fait comprendre à quel point tu m'aimais. Tu m'as fait comprendre à quel point en fait tu étais là depuis le début. Que t'entourais mais pas, que tu m'entourais Seigneur, que tu me protégeais. Et qu'aujourd'hui encore, après 13 ans de marche chrétienne, tu es fidèle à chaque jour. Et je veux le proclamer. Et ça c'est par ta mort et ta résurrection Seigneur. Nos vies sont basées sur ta mort et ta résurrection. Proclamons-le ensemble. Le sang de Jésus est suffisant pour nous. Pour sauver, pour pardonner, pour délivrer, pour libérer, pour aimer. Il est puissant pour toutes ces choses et encore. Proclamons ça ensemble, alors qu'on reprend ce chant ensemble. Proclamons que le sang de Jésus est suffisant pour tous nos besoins. Au nom de Jésus. Amen.
Qui me donne un cœur. pour nous. Tu étais dans ton ciel de gloire, Jésus. Et par amour pour nous, tu es descendu sur la terre. Et Seigneur, ce matin encore, on veut réaliser à quel point, Seigneur, c'est un cadeau merveilleux. C'est le premier dimanche de l'Avent et on veut vraiment réaliser que tu es venu comme un cadeau, comme un trésor pour chacun de nous. Et je crois aussi que comme ta naissance qui est venue apporter la vie, il y a aussi des choses durant cette période de l'Avent que tu veux faire renaître en nous. Peut-être que c'est la joie, peut-être que c'est l'espérance, peut-être que c'est la paix. Seigneur, vraiment, on veut encore saisir, Seigneur, cette naissance comme une naissance, une toute nouvelle naissance aussi en chacun de nous. Parce que, Seigneur, tu es le Dieu de vie, tu es celui qui est venu apporter la vie, tu es celui qui est venu apporter la délivrance. Tu t'es sacrifié pour chacun de nous. Et on veut encore saisir ce trésor, on veut encore saisir ce cadeau que tu nous as fait à chacun de nous.
qu'on peut applaudir notre Sauveur ce matin? Amen. Merci à l'équipe de louange. Qui aime chanter des chants de Noël avec le vrai message de Noël à l'intérieur des chants? Yes. Moi, j'aime ça aussi. Qui est fan aussi de regarder des films de Noël sur à la maison et tout, ouais? Ok, trop bien. Bienvenue à tous. On est content de vous accueillir pour ceux qui viennent habituellement, mais aussi ceux qui viennent pour là ou les premières fois. Et peut-être que tu arrives ici, une grande église, on est environ 400-450 personnes. Sache que l'EPI, okay, l'EPI c'est le nom de l'église, c'est pas juste le dimanche matin, il y a toute une vie aussi dans la semaine, à travers des groupes de vie, à travers des groupes de maison, à travers des événements, que ce soit centrés au niveau de l'âge ou au niveau des centres d'intérêt. Donc si tu veux découvrir tout ce qu'on vit, je t'invite à aller au point accueil, il y a toutes les infos. Okay, que tu sois un ado, un jeune, plus de 30 ans, un aîné ou peu importe, en couple, une famille, il y a un événement pour toi parce qu'on veut rejoindre chacun dans sa réalité. On a tous des défis, on a tous des centres d'intérêt différents et on veut proposer à chacun justement un événement où on va avoir des centres d'intérêt en commun mais aussi où on va parler de ce qu'on veut avoir en commun, c'est-à-dire Jésus puis l'amour de Dieu. Amen. Yes, donc n'hésite pas à aller au point accueil. À tous les deux mois, on fait juste un petit point pour vous remercier pour votre générosité. Merci pour tout ce que vous donnez, tout ce qu'on fait ici, même l'achat des sapins qui sont accrochés. D'ailleurs, qui aime les sapins suspendus? Ouais, ok. Est-ce qu'il y en a qui ont peur que ça leur tombe sur la tête quand ils passent en dessous? Non, ça va? Ok. Ils sont bien accrochés, vous inquiétez pas. On a fait en sorte avec Rémi de vraiment faire ça dans les règles de l'art. Et il y en a qui ont des dons et talents justement pour fabriquer ça. Donc on est bénis ici à l'EPI. Donc merci. Je reviens à mon sujet. Merci pour votre générosité. On peut faire toutes sortes de choses et surtout ce qu'on fait avec les sous qu'on a, c'est on annonce le message de l'Évangile en action et en parole. Donc on vient en aide à ceux qui sont les plus démunis, à ceux qui sont dans le besoin et on essaye de propager au maximum le message d'espoir qu'il y a en Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est des centaines ici à l'avoir vécu et on sait que c'est le message le plus important qu'on peut entendre dans notre vie. Que Jésus est venu sur terre, c'est ce qu'on va fêter à Noël, qu'il est né, qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il nous offre un renouveau spirituel si on l'accepte. Amen. Combien sont d'accord que c'est le message le plus important à distribuer? Et on fait ça avec toutes sortes de moyens plus modernes les uns que les autres, donc, et ça prend de l'argent, donc merci pour vous. Et juste un rappel, il y a trois manières simples et sécurisées de donner. Le tronc juste derrière, on peut donner en liquide dans une petite enveloppe, sinon on va sur le site internet, on peut payer directement avec sa carte bancaire, ou on prend le RIB qui est au point accueil et puis on peut le rajouter même en paiement automatique. Moi c'est ce que je fais, comme ça j'oublie pas. Et donc il y a différents moyens pour soutenir et encore une fois merci pour ça. Et justement, en parlant de venir en aide à ceux qui sont les plus démunis, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans le hall, c'est un petit peu le marché en ce moment. Vous avez remarqué ou pas? Ok, on se croirait un petit peu Place Kléber. Non, j'abuse, pas quand même. Mais en tout cas, c'est l'EPI fait son marché. Il y a différents stands qui sont là et il y a plein d'idées cadeaux qu'on vous offre justement pour pouvoir bénir un collègue, un ami, un membre de la famille. Il y a les aiguilles solidaires qui sont là pour vendre des vêtements. Il y a toutes sortes de gâteaux. Il y a du vin chaud qui a été préparé par notre pasteur brasseur préféré Michel Schneider. Non, non, vraiment, il y a toutes sortes de choses. Et il y a aussi la CLC qui vend les calendriers de l'Avent, qui vend les livres aussi pour pouvoir bénir, encourager votre foi ou bénir la personne à qui vous allez offrir ce livre. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et les égouts solidaires et la vente de gâteaux et de boissons, ça va venir en aide à Enjeu, l'association culturelle que l'on soutient, qui vient en aide à plus de 100 personnes par mois qui sont dans le besoin et à travers aussi des actions missionnaires. Différents missionnaires qui sont dans différents pays à travers le monde et Enjeu vient les soutenir d'une manière financière mais aussi matérielle. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Et justement, on vient encore en aide au plus de midi à une collecte de produits d'hygiène qui va être faite par Enjeu, qui sera le dimanche 10 décembre et le dimanche 17 décembre, donc la semaine prochaine et la semaine encore d'après. Et pour savoir quels produits ramener, la liste se trouve au point accueil. D'accord? Donc vous avez juste à aller au point accueil, la liste est là et vous aurez toutes les infos pour savoir quoi ramener. Donc le dimanche 10 décembre et le dimanche 17 décembre. Donc c'est fini pour mes annonces. Je vais inviter Anne qui va apporter le message ce matin. Premier message sur Noël et on va juste prier pour elle pour que Dieu parle à travers elle. Vous êtes d'accord? Yes, Seigneur, merci pour ce dimanche. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ce mois de décembre où on va se rappeler que tu es venu sur terre pour nous sauver. Et je vais te prier pour le message de Anne, justement, qui va parler de Noël. Je prie de lui parler à travers elle. Je prie de nous parler à travers elle, lui donner tes mots. Seigneur, que tu puisses vraiment toucher nos cœurs, percer nos cœurs. On veut encore saisir ton amour, saisir ce que tu veux nous dire ce matin. Donc viens la bénir, viens la remplir de toi. Au nom de Jésus. Amen.
Amen. Moi, j'aime bien parce que la louange, les annonces, tout est dit. J'avais envie de dire, ben, c'est bon, tout à l'heure, je dis à Michel, c'est bon, l'annonce, là, tout est prêché, tout est dit, je peux aller rentrer à la maison tranquille. Le culte est fait en un quart d'heure. Trop bien. Je sais pas si vous regardez les infos un petit peu. Ouais. Non, on n'ose pas trop allumer la télé. J'avoue que j'allume pas trop la télé, voire pas du tout. Mais j'ai vu dans les infos, il y a quelques temps, une ville a osé, et je pense que vous en avez entendu parler, ces phrases ont été dites, oubliez le vocabulaire de Noël, oubliez que le mois de décembre c'est Noël, mais revenir à l'idée de l'hiver, oubliez Noël. C'est fort quand même. Est-ce que vous avez vos téléphones à la main? Alors sortez vos téléphones, en silencieux s'il vous plaît. Ne vous appelez pas, n'envoyez pas de message encore. Répondez à cette petite question, seriez-vous déçu que Noël n'existe plus? Vous allez sur le site menti.com, il y a le code 1250976 et j'attends vos réponses patiemment. Seriez-vous déçu que Noël n'existe plus? Que ce soit annoncé une fête d'hiver, tout simplement. Alors, je ne sais pas, en fait, je ne sais même pas c'est quoi le non, c'est quoi le oui. Mais je suppose... Ah, merci. Oui, fou, oui. D'accord. Il y a quand même... D'accord. Ça monte. C'est pas mal. Il y a quand même des non, c'est bien. Que les noms veuillez me voir à la fin de la célébration, s'il vous plaît. Hein, je veux bien avoir votre retour, mais on va l'avoir peut-être après sûrement. Ça monte pas mal. Ok, ça continue, mais le oui reste en majorité quand même. Il reste le plus annoncé. Il y a une deuxième question. Il y en a qui s'amusent avec les petits pouces. La deuxième question, c'est pour quelle raison? Allez-y, hein, ceux qui ont dit non... Allez-y aussi, hein, marquez « j'ai dit non » ou « je sais pas ». Du coup, il y en a qui oseront plus. Oula. Famille, amour, cadeau. Oh, Jésus. Ah, ok, Jésus, amour de Jésus. Bon, c'est bien, famille est au centre quand même, il reste au centre, c'est bien. Tradition, ah, le non, ça doit être trop commercial. Ok, pas de chocolat, d'accord, ok. Pas de gâteau. Ah, donc il y en a qui ne sont pas gourmands comme moi, je peux comprendre. Témoignage. Ok, célébration. La magie de Noël. L'atmosphère. L'essentiel. La culture. Waouh, trop bien. La fête. Eh bien, la joie. Bon, il y a tout qui a été dit, c'est trop bien. C'est trop bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vraiment merci pour vos réponses. Ça continue encore, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Il y a tout qui est dit. Et merci pour ceux qui ont dit non et qui ont répondu pourquoi non. C'est super intéressant d'avoir vos retours. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, le moment de Noël, ça met comme une pause dans notre routine, dans notre quotidien. Et on s'affaire tous à dire « Oh là, ça y est, c'est Noël !» Les cadeaux, le repas, comment on s'habille, qui on invite, qui on n'invite pas. Faut être honnête. Hein. Pas d'histoire, hein. C'est un repas de Noël. Noël devient ainsi un véritable repère temporel, un repère qui réunit les générations. Et parfois, il réunit aussi toute personne de cultures différentes, j'ai envie de dire de croyances différentes. Et il y a aussi des coutumes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous savez que je viens du Sud. Et dans le Sud, en Provence, il y a les 13 desserts. Ah, il y en a qui connaissent. Merci, ça me touche. Par contre, ne me demandez pas de les citer parce que je ne sais pas, je ne suis pas trop... Alors, vraiment, Noël rassemble les gens du monde entier. Et j'ai envie de dire, peu importe d'où il vient. Et je crois que j'ai entendu une fois, lors d'une guerre, je ne sais plus laquelle, excusez-moi, je n'ai pas pris les infos, et le jour de Noël, ils se sont arrêtés. Et quelque chose d'extraordinaire, c'est que les deux camps, ils chantaient Noël ensemble. Face à face. La première ? Merci ! Ça va. Mais parfois, Noël, même s'il réunit, des fois, pas tout le monde a cette même sensation de joie, de paix, d'amour. Et un repère Noël, un repère au sens figuré, c'est tout élément abstrait ou indice permettant de reconnaître, de situer quelque chose dans une chronologie. Ça peut être aussi une personne. C'est notre repère, notre point de repère, un peu comme le phare qui est le repère pour les bateaux. Et bien que notre société semble parfois égarée et en perte de repère, Noël se dresse comme un point d'ancrage précieux, nous rappelant que Jésus-Christ est notre repère. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, Noël, un repère. Et pour cela, on va quand même s'intéresser à l'origine de Noël. Ça arrive d'où? Ça vient d'où? Ce qui va nous amener, bien sûr, à notre repère, Jésus-Christ. Pour après peut-être arriver à répondre et à se sentir soulagé ou pas, d'ailleurs. Mais normalement soulagé pour dire, est-ce que je peux fêter Noël? Et comment je peux le fêter? D'où vient Noël? Je me rends compte de plus en plus que j'aime bien, quand je lis la Bible, faire un rapport avec l'histoire. Avant, quand j'étais petite, je croyais que l'histoire, pardon Seigneur, c'était comme des contes de fées en fait. C'était un livre qui était rajouté et je me suis rendu compte en grandissant, en étudiant, qu'en fait non, il y a l'histoire qui va avec. Et c'est super intéressant. Mais j'avoue que là, concernant Noël, la Bible n'a pas de verset qui stipule explicitement le mot Noël. Les évangiles parlent de la naissance de Jésus, mais ils ne donnent pas de date précise. Et il y a un passage qui pourrait nous donner quelques indications. Il se trouve dans Luc 2, 8. C'est au moment de la naissance de Jésus. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Et là, ce verset qui parle du jour où Jésus est né, les bergers étaient dehors dans les champs. Et à cette époque, en Israël, la saison pluvieuse débutait après la fête des cabanes, c'est-à-dire en octobre. Et le mois qui suit, le mois de novembre, était humide et froid, et les troupeaux étaient déjà rentrés et ne passaient plus les nuits dehors. Bon, on n'a pas plus de renseignements, on ne va pas aller très loin. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis tournée quand même vers l'histoire. Et la période où se trouve Noël, avant d'être une fête religieuse, était une célébration pour le solstice d'hiver. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Solstice. Ça provient du latin solstitium, composé de sol, soleil, et de stitium, arrêt. Et là, les historiens s'accordent à reconnaître que, bien avant l'époque romaine, on fêtait en Europe, à la fin du mois de décembre, la renaissance tant attendue de la nature. La renaissance, l'espérance d'une vie nouvelle lors du solstice d'hiver. Et là, la durée des jours devenait de plus en plus courte. Et il était fêté un mois de Saturnal, la fête des Saturnes, et la naissance du soleil invaincu. Je pense que vous avez remarqué qu'il fait nuit tôt en ce moment. Rien à voir avec l'été, hein. Je ne sais pas si vous savez, le 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année, de toute l'année. Mais ce qui annonce, après le 21 décembre, les jours vont grandir. Et de nombreux peuples avaient l'habitude de célébrer la victoire de la lumière sur l'obscurité, telle une renaissance du soleil. Au fil des temps, cette notion de lumière est d'ailleurs restée très présente pendant les périodes de Noël. On voit avec les bougies, les lumières, les guirlandes lumineuses. Vous allez dans Strasbourg, vous en voyez plein. Il y en a une ici. Et en décembre, Jules César a changé la fête des solstices d'hiver du 21 décembre au 25 décembre, lorsqu'il mit en place le nouveau calendrier solaire. Et au IIe siècle après Jésus-Christ, l'Église cherchait la date de naissance de Jésus. Et vers l'an 300 après Jésus-Christ, le pape Libère décide que le jour du solstice d'hiver est la date idéale pour célébrer la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Alfred Kuhn dira dans le livre L'Encyclopédie des questions, « Si plusieurs des ornements des Saturnales ressemblent d'une façon ou d'une autre à ceux que nous avons aujourd'hui, nous savons maintenant où nous avons emprunté nos traditions des fêtes. En réalité, on a suggéré que bien que le Christ ne soit sûrement pas né à la fin décembre, les premiers chrétiens étaient toujours une secte hors la loi, avaient changé la date de la célébration de Noël pour celle des Saturnales afin de ne pas attirer l'attention sur eux pendant qu'ils célébraient leur propre fête. Ce qui revient à dire que les chrétiens du 1er siècle ont tout simplement attiré l'attention sur la naissance de Jésus-Christ. Oui, ils ont utilisé la même date qu'une fête païenne, tout simplement pour remettre le clocher au milieu du village. Je m'explique. Ésaïe 45, 18 dit « En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Créateur du ciel, le seul Dieu qui a façonné la terre, l'a fait et l'a fermée, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée, c'est moi qui suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. » Ce verset nous montre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il est unique, qu'il n'y a que lui qui a tout créé. Et ça, on est d'accord, on le sait. Enfin, peut-être certains ne le savent pas, mais Dieu a tout créé. Ce qui veut dire que, en fait, ce qu'ils faisaient, les Romains, ils adoraient en fait le soleil, ils adoraient la renaissance de la nature. Mais qui c'est qui a créé tout ça? On est bien d'accord que c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé tout ça. Une image, par exemple. À Noël, quand on vous offre un cadeau, vous dites merci à qui? À la personne? Vous vous imaginez dire merci au cadeau? Je me suis fait un film toute seule. Et là, je me vois. Je vais essayer de faire la blague. Ah, mes mains s'y regardent. Je vais essayer de faire la blague en entrant à la maison. Ah, merci, cadeau pour. Il est arrivé où? Qui c'est qui? On vient de voir que la célébration de Noël vient, oui, peut-être d'une fête païenne. Enfin, elle vient pas, elle a été mise à la place. Mais un détail qui est important, c'est qu'au XIVe siècle, le mot Noël fait son apparition. Et c'est réissu du latin natalis, qui signifie de naissance. Et plus exactement, natalis dies, qui signifie jour de naissance. Ce mot a été choisi par l'Église pour désigner la naissance du Christ. L'Église. Les chrétiens souhaitaient ainsi faire disparaître d'anciennes coutumes et traditions païennes en y subsistant l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté, la nativité, la naissance de Jésus, la naissance du Sauveur. Profiter d'une fête païenne déjà bien installée dans les pratiques populaires de l'époque pour mieux diffuser la parole, la bonne nouvelle, le message de Jésus. Ce qu'il disait Jérôme tout à l'heure, toutes occasions sont bonnes pour apporter. Et bien sûr, pour nous chrétiens, la vraie source de lumière, le repère, c'est Jésus. La bonne nouvelle à annoncer, c'est la naissance de notre Sauveur. Et là, vous pourrez me dire, mais je suis un peu perdu quand même, parce que ça vient, enfin, les origines, pas trop chrétiens, c'est pas trop... Timothée Keller, dans Les idoles du cœur, dira « L'idolâtrie n'est pas simplement un refus d'obéir à Dieu, c'est une fixation du cœur entier sur autre chose que Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est le sujet qui est important. C'est pourquoi on l'utilise. Et Paul dira aux Romains dans le chapitre 1, le verset 21-25, « Puisque tous, en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Et l'Église a voulu justement remettre le clocher au centre du village. Remettre l'importance. Noël, c'est détourner le focus sur quelque chose de faux pour le remettre sur le repère le plus important. Jésus-Christ, notre point de repère. Rick Warren dira dans un Noël motivé par l'essentiel, vous ne l'avez peut-être encore jamais réalisé, mais chaque fois que vous vérifiez votre calendrier ou faites référence à une date, vous utilisez Jésus-Christ comme repère. À cause de Jésus, bon, moi j'aurais dit grâce, mais bon, à cause L'histoire est divisée en avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Tous les autres événements de l'histoire et de votre calendrier aujourd'hui sont datés en fonction du nombre de jours et d'années qui se sont écoulés depuis sa venue sur terre. Bah tiens, ça c'est bizarre. Jésus au centre, avant, après, c'est un bon repère. Et tout à l'heure, je vous ai dit que les Romains fêtaient les Saturnes, c'est-à-dire la fête de renaissance du soleil invaincu. Ils devaient vraiment espérer que le soleil revienne et peut-être qu'ils avaient peur qu'après l'hiver, il n'y avait plus rien. J'avoue que moi, au bout de 2-3 jours, quand je ne vois plus le soleil ici, je ne prie pas pour que Dieu mette le soleil parce que je me dis peut-être qu'il y en a, ils prient pour la pluie parce qu'il y en a besoin aussi. Mais je les comprends, peut-être qu'ils désespéraient un peu. Mais pour les chrétiens, le vrai soleil, la vraie lumière, invaincu, c'est Jésus. Et Jean 8, 12, Jésus le dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Et dans ce verset, on a... Merci pour le Amen. Dans ce verset, on a une notion qui nous parle que Jésus, justement, est la lumière. Jésus est la lumière. Et une autre notion de marcher dans les ténèbres. On est bien d'accord que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Alors, on ne peut pas faire l'obscurité totale ici, mais imaginez-vous dans le noir, quand on mène une bougie, une lampe, ben du coup, on y voit et on voit la lumière. Les ténèbres, qu'est-ce que c'est ? Dans la Bible, les ténèbres font référence au mal et à l'ignorance. Je pense que vous l'avez vu, le monde est rempli de mal. Et ça, c'est depuis toujours, même depuis à l'époque de Jésus. On allume un peu la télé, on regarde nos voisins un peu, on regarde nous-mêmes aussi. On entend des violences, on entend des injustices, on entend des maladies, des souffrances, des discordes familiales, des querelles. On entend tout un tas de choses qui datent depuis des années. Des cambriolages. Et je pense que même beaucoup, on a expérimenté aussi ce mal. Et je pense que vous le savez, c'est des choses qu'on répète et qu'on répète, mais pour bien que ça soit ancré, parce qu'on a besoin, on est auditeur oublieux par moment. Cette source de mal, elle ne vient pas de Dieu. Il fut un temps... Il y a fort longtemps où l'humanité vivait dans la lumière et l'absence totale de ténèbres. Où l'humanité était en contact direct avec la lumière. J'arrive pas à imaginer avec mon intelligence, mais qu'est-ce que ça a dû être bon, merveilleux, l'absence de ténèbres. Et un jour, l'auteur des ténèbres vient tenter l'être humain pour l'emmener dans sa chute. Vous connaissez la suite. L'homme a succombé à la tentation et est devenu marqué par le mal. Et là, il y a une séparation de la source de lumière. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais en fait, dans le jardin d'Éden, il y avait tout ce qu'il faut. Et à un moment donné, Dieu se dit, je ne peux pas vivre avec le péché. Donc il les a fait sortir. Là où ils avaient tous leurs repères, ils sortent, ils perdent tous leurs repères. Et on sait que la lumière, ouais, je suis une sudiste et j'aime beaucoup le soleil. Il y a un rayon de soleil, je sors dehors, je ne mets pas les lunettes de soleil encore, mais je sors dehors. Mais le soleil, c'est la vie. Le soleil, ça fait pousser les plantes. Le soleil, ça nous donne de la vitamine. Sans soleil, je pense qu'on serait congelé, voire surgelé, voire je ne sais pas comment expliquer, mais... Et ça me fait penser au peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte, à un moment donné. Ben, c'est vrai qu'ils avaient quelque part leur repère, même s'ils vivaient dans quelque chose de difficile, dans le travail et tout ça, mais ils ont tout perdu, leur repère et tout ça, et ils sortent, mais ils sont guidés par la nuée, par le repère. Ils sont accompagnés. Et je me rappelle que quand je travaillais en maison de retraite, il y avait des papy-mamies, ils n'avaient pas le choix, ils ont quitté leur maison, et ils sont venus en maison de retraite. Et bien sûr, perte de repère. Chez eux, ils savaient où se retrouvait la salle de bain, les toilettes, le salon et tout ça. Et là, ben, j'en voyais plein. Alors au début, ils étaient là. Je dis, Vous cherchez quelque chose ? Oui, ma chambre. On a été obligés de mettre des repères pour certains, pour qu'ils arrivent à retrouver leur chambre dans les débuts. Perte de repères. Et heureusement, Dieu s'est fait homme au travers de Jésus pour être la lumière du monde rempli de ténèbres. Mais en se faisant homme, il est allé jusqu'à perdre sa lumière pour prendre nos ténèbres et pour que nous vivions plus dans les ténèbres. Et Dorothy Sayers, une romancière anglaise, elle écrit « La signification de l'incarnation est que, quelle que soit la raison pour laquelle Dieu a choisi de nous laisser chuter, souffrir, être la proie du chagrin et de la mort, il a eu malgré tout l'honnêteté et le courage d'être lui-même le remède. Il ne peut rien exiger de l'homme qu'il n'ait déjà exigé de lui-même. Il a lui-même subi tout ce qu'un être humain peut subir, des petites contrariétés de la vie familiale, en passant par des affres du travail exténuant ou du manque d'argent, jusqu'aux douleurs les plus atroces, aux humiliations, aux revers, au désespoir et à la mort. Il est né dans la misère et a souffert 1000 morts pour nous, en considérant cela comme mérité. La signification de l'incarnation, c'est que Dieu a choisi de venir sur la terre. Il a choisi de vivre les difficultés que l'on a traversées, que l'on traverse peut-être encore, et les souffrances humaines, montrant qu'il connaît, qu'il comprend les épreuves par où on passe, offrant lui-même la solution à nos problèmes, la solution à nos souffrances, par amour pour nous. Oui, le monde va mal, c'est une certitude, et humainement, il n'y a rien qui peut égaler ce sacrifice. Ni l'argent, ni l'or ne peut payer ce que Dieu a fait en donnant son Fils à la croix pour nos péchés. C'est un cadeau. C'est un cadeau. Je ne sais pas comment, des fois, vous réagissez face à un cadeau. J'ai un cadeau, je ne sais pas comment dire merci, je ne sais pas si je suis contente, si... Avant, je vais l'ouvrir et je vais voir si je suis contente. Mais là, c'est un cadeau d'une valeur inestimable. En plus d'être la lumière, le repère, Jésus démontre l'amour de Dieu en s'offrant en sacrifice à notre place. Jésus, notre repère. Jésus, notre guide. Jésus qui montre comment nous devons agir. Il montre son amour. Si peut-être pendant les fêtes de Noël, toi tu ressens pas cet amour, toi tu dis je suis pas aimée, j'ai même pas de famille, j'ai plus rien, viens Jésus, il a de l'amour pour toi et il l'a montré à la croix. Dans la société qui est en perte de repères, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien, Jésus nous a laissé un exemple de vie, de comportement à suivre. Ses paraboles, ses discours, ses actions, tout nous explique. Tout nous montre la manière dont les croyants, dont nous devons vivre, dont nous devons nous comporter. Les évangiles nous annoncent, nous disent l'amour du prochain, aimez-vous les uns les autres. Ayez un même cœur. La compassion, le pardon et la recherche de la justice. Jean 13, 13 à 15 dit « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Attention, on ne va pas sortir les bassines en sortant de la célébration, on ne va pas enlever les chaussettes, les collants et tout ça, et les chaussures. Mais je pense que vous avez compris, et c'est un verset qu'on connaît bien. Être serviteurs les uns des autres. J'ai lavé les pieds des personnes âgées à la maison de retraite, et à chaque fois que je le faisais, je m'entendais des remarques du personnel. « Ouais, tu fais ça ?» Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas ça, je n'aimais pas ça sur le moment, mais quand je voyais que ça les soulageait, ça leur faisait du bien et tout ça, je dis « Bon, ok, je l'ai fait pour eux, pour leur faire du bien. » Mais je me dis, moi je suis un être humain, ça va. Je suis une parmi tant d'autres. Mais Dieu, le Créateur de l'univers s'est abaissé là jusqu'à nous. Il n'a pas regardé à sa condition où il était en paix, il était tranquille, et il s'est abaissé. Et il nous demande par là, faites de même. Ce n'est pas de l'esclavagisme, mais c'est se rendre service les uns aux autres, c'est se bénir les uns aux autres, c'est se faire du bien les uns aux autres. Parce que Dieu nous a créés pour vivre les uns avec les autres. Pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Et c'est l'exemple que Jésus nous a donné sur terre. Et Jésus est venu sur terre pour réparer la relation entre Dieu et l'humanité, révéler l'amour divin, enseigner des principes moraux, offrir un exemple de vie et établir le royaume de Dieu. Il est venu comme un repère pour l'humanité, un exemple à refaire. Ce qui nous amène à se dire, bon, ok, peut-on fêter Noël ? Pour introduire cette partie, je vais vous lire un texte un petit peu long. Ça ne va pas durer 10 heures, vous inquiétez pas. Dans son classique « Tactique du diable », l'auteur anglais C.S. Lewis met en scène une situation peu banale. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le conseille, il est intéressant. Un vieux démon tentateur donne des conseils à une nouvelle recrue, un jeune démon inexpérimenté. Pour l'aider à faire chuter un chrétien. Et donc, ces écrits sont réunis sous forme de 31 lettres. Et ce livre intemporel est si populaire et marquant que les gens ont composé d'autres lettres dans le même style pour prolonger l'œuvre de Lewis. Et justement, Justin Wainscott, un pasteur, a imaginé une version spéciale période de Noël. Je vais vous lire. Comment s'attaquer aux chrétiens quand on est un démon pendant la période de l'Avent, la période où on est exactement maintenant. Assure-toi que ton protégé soit suffisamment occupé et distrait. L'important est qu'il ne parvienne pas à méditer sur l'incarnation, cette vérité terrible pour nous. Heureusement, le potentiel de distraction est énorme durant le mois qui précède Noël. Fais en sorte qu'il prenne une tonne d'engagement. Assure-toi qu'il ne rate pas une seule fête et qu'il se sente obligé de choisir méticuleusement un cadeau pour chacune de ses connaissances. Pousse-le à assister à tous les concerts, à participer à tous les soupers et événements caritatifs possibles. Et si son calendrier n'est pas assez rempli, tu auras échoué. Épuise-le, fatigue-le de toutes les manières convenables. Qu'il ne cesse de faire ceci et cela. Et si cette tactique ne fonctionne pas, plonge-le dans un océan de divertissement. L'important, c'est qu'il n'ait ni le temps, ni l'occasion de réfléchir à la signification des célébrations de Noël. L'important, c'est qu'il n'ait ni le temps ni l'occasion de réfléchir à la signification des célébrations de Noël. Quand je l'ai trouvé, ce texte m'a vraiment interpellée parce que je me suis dit, il y en a un qui ne chôme pas. Il y en a un qui ne chôme pas. Il met tout en place pour que soit oubliée la vraie signification de Noël. Qu'allons-nous faire ? Si on vous annonce une naissance, vous êtes content ou... Il y en a peut-être, ils n'osent pas trop se prononcer. Si c'est le 15e, ben, tu comprends qu'à un moment donné... Ouais, mais voilà, le premier, il a pris la vedette, quoi. Parfois, on s'habitue aux naissances, c'est vrai, le premier, c'est wouh ! Oh, le deuxième, ça va. Troisième. Si ça arrête à trois, le troisième devient le chouchou, donc, enfin, bref. Et tout à l'heure, on va présenter un enfant. Parce que Dieu a donné la vie. Et c'est une bonne nouvelle, en fait, une naissance. Et je sais que ma mère nous racontait qu'à ma naissance, elle m'a présenté à mon frère comme un cadeau. Il y en a qui doivent se dire, ouais, c'est super cadeau. Enfin, le cadeau, à revoir. Eh bien, apparemment, il était content. Il était tellement content qu'une fois, quand je pleurais, il m'a porté. Bon, il m'a un peu étranglé parce qu'il avait que 2 ans. Et il m'a porté jusqu'à ma mère. Donc, c'est qu'il devait être content d'avoir sa petite sœur. Et quand ma petite sœur est arrivée, elle a fait pareil, elle a présenté ma petite sœur comme un cadeau. Une naissance. Noël, c'est la célébration d'une naissance. Luc 2, 10, 11. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Ouais, là j'avais écrit, les chrétiens poussent des cris de joie, ils rendent gloire à Dieu, mais apparemment, cette naissance laisse inaperçue. Vous êtes bien sages ce matin. Un sauveur nous est né. Je suis super contente. Non mais sérieux, ça se voit pas. Ouais, ok. J'ai du mal à imaginer, mais je voudrais tellement exploser de joie. Tellement me dire, mais punaise Seigneur, je mérite tellement rien. Et tu m'as fait ce super cadeau. Et le truc, merci. Wouh! Une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. C'est pas la naissance de n'importe qui, c'est la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur. Le Sauveur de l'humanité. C'est le produit, enfin, c'est une naissance, la paix, la joie, l'amour, le pardon. On est libéré, on n'est plus condamné. Wouh! Punaise! Moi, je me sens libre. J'aurais dû venir en pyjama d'ailleurs, tiens. Je rigole. Pas à ce point, quand même. Oh là là, Seigneur. Quand vous avez une bonne nouvelle, rassurez-moi. Il y a une semaine, une pote, elle m'appelle et elle me dit « Ouais, j'ai une nouvelle à t'annoncer. » Je croyais qu'elle allait m'annoncer ses fiançailles et tout. J'étais là, j'étais prête. Elle me dit « Je vais me marier. » J'étais encore plus belle, j'étais super contente. Elle me dit « Mais je t'annoncerai mes fiançailles après le mariage. » Je dis « Ok, pas de souci. » Mais une bonne nouvelle. J'en suis sûre que si je vous annonce que vous avez gagné un chèque avec plein de zéros, là ça fuse, là. Ouh, ouh, qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Voyage, pas voyage, maison, voiture, enfin bref. Cette bonne nouvelle, c'est la naissance d'un sauveur. Un sauveur. Et comment ne pas fêter cette naissance? Oui, il y a 2000 ans, elle est passée. Et le temps peut user. Mais cet impact, il a un impact pour l'éternité, pour notre éternité. Il a un impact. Alors certes, Jésus n'est pas resté bébé. Il a grandi, il a montré le chemin, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Il est mort, mais il est ressuscité. Et il a vaincu la mort à la croix. Il a vaincu la mort à la croix. On est éternel. On est éternel. Punaise, Seigneur, c'est un truc de fou. Le mal est vaincu, plus aucun pouvoir. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui croit en lui. Tu n'es pas condamné ce matin, tu es racheté. Tu es racheté. Et là, je me dis impossible de rester insensible. Cette naissance est le repère d'un Père qui s'est donné pour l'humanité. Et 2 Timothée 4,2 dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. » Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Alors, est-ce qu'on peut fêter Noël? Je vous laisse répondre. Et pour... vous assumez, hein? Ah mais bravo. Est-ce qu'on peut fêter Noël? Je vais demander à l'équipe de louanges si elle veut bien monter et de se dire, bah, ouais, il est vrai qu'à la base, ben... Bah, c'est pour détourner les gens d'une fête païenne. Et moi, je trouve que c'est super bien. Vous savez, je vais être honnête ce matin. Hein. Il y en a peut-être qui vont se dire, ça y est, on a perdu Anne. Elle est foutue et tout, mais c'est pas grave. Moi, je me sens pas trop perdue pour l'instant. On m'a offert un chapelet cette semaine. Et on se dit, oula. C'est vrai que c'est pas mes pratiques, c'est pas mes convictions, c'est pas... Mais j'ai été touchée. Et quand j'ai pris ce chapelet, en fait, en le prenant, j'ai vu la croix et j'ai vu, oui, il y a Jésus crucifié dessus. Bon, on voit pas son visage, c'est tellement petit que... Et bien là, je me suis dit, punaise, fille, il l'a fait. Il l'a fait pour toi, quoi. Alors, je ne vais pas me mettre à adorer, je ne vais pas me mettre à prier, vous avez compris. Mais cet objet m'a rappelé cet impact. Et oui, ça peut partir d'une fête païenne, mais cette fête païenne, les chrétiens ont tellement été touchés par l'amour de Jésus qu'ils ont dit, on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester, on ne peut pas les laisser dans l'ignorance, on ne peut pas les laisser dire merci au cadeau alors qu'il faut remercier Dieu. Ce repère, c'est le Fils de Dieu qui s'est offert pour te sortir des ténèbres. Toutes les ténèbres qui t'entourent et qui t'entourent peut-être encore. Alors, ben cette année, comment vas-tu fêter Noël? Est-ce que tu vas fêter Noël? Il y a des dates qui sont importantes, qui sont des repères. Il y a eu pas mal de sujets où vous avez dit, si on vous dit qu'on enlève Noël, est-ce que vous êtes heureux? Alors certains ont dit, est-ce que ça vous embêterait? Est-ce que vous serez déçus? Certains ont dit non. D'autres ont dit oui, la majorité a dit oui. Mais est-ce que le oui, c'est parce que en fait, on va oublier la naissance de Jésus? C'est fait dans l'objectif d'effacer le Sauveur qui est né. Le Fils qui nous a été donné. J'ai pris une citation, une phrase qui m'a marquée dans un article de journal. Il dit, les uns rappellent que Noël est la fête qui rassemble. Les autres qu'elle a participé à forger la société. Mais qui évoquera que Noël est d'abord la manière dont Dieu veut remplir par sa présence les grottes sombres et froides de notre monde et de notre vie. Qui aura le courage de dire non, ce repère-là, je ne veux pas l'enlever de ma vie. Ce repère-là, je veux qu'il soit mon repère pour toute ma vie et je veux le partager. Noël, oui, c'est la naissance d'un sauveur. Et c'est vrai qu'avec les années, parfois, avec les années de conversion, les années qui passent, on peut se dire oui, c'est bon, allez, c'est Noël, on a l'habitude chaque année, les cadeaux, les... Non. Je prie vraiment pour ne pas perdre cette ardeur, ce zèle de dire mais punaise, un sauveur m'est né. Pour me sauver parce que je suis une catastrophe. Pour me sauver parce que ben, parfois, au lieu de faire le bien, je fais le mal. Pour m'aider, m'enseigner. Et ce repère-là, je ne veux pas l'oublier. Parce que si je l'oublie, je suis perdue pour l'éternité. Si tu l'oublies, tu seras perdue pour l'éternité. C'est ça, Noël. Notre repère. Un de nos repères de notre vie. Un fondement. Et on va reprendre le chant « Minuit chrétien ». Peuple debout. Annoncez le Sauveur qui nous est né. Annoncer son amour, annoncer qu'il est mort, qu'il est ressuscité et qu'il vit encore aujourd'hui à nos côtés par sa présence, par son esprit. Annoncer. Je vois dans les films et dans les films où ils se battent à la guerre, ils courent. Ouais, on y va. Et pour Jésus? Je vous assure, hein, moi je me dis, mais punaise. Je vous critique pas, je me critique, enfin, je comprenez bien. Pour Jésus, est-ce qu'on se lève? Est-ce qu'on annonce? Est-ce qu'on dit vraiment, Seigneur, peuple debout, annonce la délivrance. Annonce qu'un sauveur est né. Combien nous sommes à Strasbourg à ne pas connaître Jésus? Combien ils sont dans nos familles, nos voisins? Annonce la délivrance. Annonce qu'un sauveur nous est né. Annonce ce repère fidèle qui ne bouge pas, même si moi je quitte ce repère, lui ne bouge pas, il est toujours là. Alors vraiment, si vous le sentez, si vous vraiment cette ardeur de dire oui, je veux annoncer, peuple, lève-toi pour le roi des rois, lève-toi pour annoncer qu'il est né, qu'il est mort et qu'il est ressuscité.
Minuit chrétien.
Quel message, mes amis, quel message. Combien vont relever ce défi-là d'annoncer que la délivrance est descendue à 2000 ans, qu'elle est disponible pour chacun d'entre nous. Yes, dans nos familles, dans notre voisinage, dans notre travail, avec nos amis. On va relever ce défi ensemble. Yes, on va. Merci à l'équipe de Louange, merci pour ce temps. On va maintenant passer à la présentation d'un bébé. On baptise pas les enfants à l'EPI. On croit que c'est une décision personnelle qui doit être faite à un âge où on est conscient de nos décisions, de nos choix. Mais par contre, on veut remettre dans la prière les parents, les enfants. C'est un cadeau et un défi en même temps d'être parents. Donc on veut vraiment prier pour eux, les remettre entre les mains de Dieu. Donc on va inviter les parents de Zara Lisa Camius. Donc les parents sont Charline et Rodney. Ce beau bébé qui est né le 27 juillet 2023. Oh là là. Est-ce qu'on peut applaudir le cadeau de Dieu pour cette famille? Yes, je vais inviter l'équipe pastorale, Mackenson, Laura et puis le CS, bien vouloir s'avancer pour prier pour elle. Oh là là, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle. Coucou. Venez admirer le cadeau de Dieu. Anna l'a dit que les bébés étaient des cadeaux, yes. Super. Je vais demander à Mackenson de vouloir prier pour la famille. Laura ? Ok, Laura. Je vais demander à Laura de bien vouloir prier pour la famille.
Merci Seigneur pour cette naissance, Seigneur. Merci parce que en ce jour, tu nous rappelles que toi aussi, Seigneur, tu es venu, Seigneur, et tu as été et tu es pour nous une bénédiction. Et pour cette famille, Seigneur, tu pourvois, Seigneur mon Dieu, avec l'arrivée de ce bébé. Je te prie, Seigneur, de les accompagner, Seigneur, dans ce ministère pastoral, Seigneur Jésus, dans ce ministère parental, Seigneur Jésus. Je te prie qu'ils puissent être, Seigneur mon Dieu, dotés de tes charismes, Seigneur, pour pouvoir accompagner, Seigneur mon Dieu, la croissance de cet enfant, qu'elle puisse grandir en stature, en maturité devant toi, Père éternel. Donne-leur, Seigneur mon Dieu, ouais, aussi ton fruit, Seigneur, de l'esprit, afin, Seigneur mon Dieu, de les accompagner, afin, Seigneur, de leur donner la patience, l'écoute, Seigneur Jésus, tout ce qu'il faut, Seigneur mon Dieu, pour Seigneur mon Dieu, la voir grandir, la voir s'épanouir, Seigneur Jésus. Je te prie qu'elle puisse rester dans tes voies, dans ton cadre, Seigneur, dans ta maison. Merci aussi pour l'Église, Seigneur mon Dieu, parce que nous voulons être, Seigneur, une veille. Nous voulons ensemble, Seigneur mon Dieu, regarder ce bébé grandir, Seigneur Jésus, l'accompagner, Seigneur Jésus, aussi dans sa croissance. Seigneur, je te prie qu'elle puisse, avec, Seigneur mon Dieu, le temps aussi, découvrir le message de l'Évangile, Seigneur, avec ses parents, mais aussi avec l'Église, Seigneur Jésus. Et qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu, rester dans les voies, Seigneur, que tu as choisies, Seigneur, pour elle. Sois béni, sois loué. Amen.
Soyez bénis. Le Seigneur vous accompagne.
Merci à vous tous. Avant de terminer, juste un rappel qu'il y a notre espace écoute et prière. Si le message vous a touché, si vous viviez des défis, des difficultés en ce moment, ou juste si vous avez besoin de prière pour un sujet particulier, toute la zone du piano à queue est réservée justement avec des personnes qui sont là pour écouter et pour prier. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment un temps où les gens sont bénis, puis on veut se soutenir les uns les autres, s'encourager les uns les autres. Encore une fois, on le répète, mais c'est pas une faiblesse d'avoir besoin de prière. Jésus a eu besoin de prière quand il était à Gethsémané et ils se sont endormis. Alors nous, on va pas s'endormir, on est là pour vous, pour prier pour vous. Donc n'hésitez pas, donc juste demandez à tous ceux qui sont assis là de bien vouloir juste libérer la zone pour garder un moment d'intimité avec les personnes qui ont besoin de prière. Sur ce, bon dimanche, les pifs sont marchés, achetez vos cadeaux, allez soutenir en jeu et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bon dimanche à tous.